Je sais pas si j'avais une petite intro, mais je ne sais pas si le technicien David va. On essaye? Bon, alors oui, peut-être que c'était juste une petite accroche, deux petits extraits de Narnia. Ah voilà, je savais bien que ça plairait à certains. Bon, c'est le Narnia numéro 1. Alors tu peux peut-être envoyer le premier extrait, après j'explique si c'est faisable, hein. Tout le monde connaît Narnia, numéro 1. Vous savez que c'est un pays enneigé. Un pays de glace et de neige, avec une démonstration de ténèbres sur ce pays, hein. Pas de soleil. Et des vaillants guerriers qui essayent de changer l'atmosphère, hein. Voilà, on peut arrêter là. Pourquoi commencer un culte de début d'année 2014 par un extrait pareil? Ah ah. La France était recouverte d'épaisses couches de glace, les glaces de la religion, les glaces de la tradition, les glaces des pensées humaines. Mais il y a une bonne nouvelle, le lion de Juda a rugi, son souffle puissant a recouvert le pays et il se passe quelque chose. Deuxième extrait. Ah bon, un point. On l'a chanté tout à l'heure, le printemps vient. Alors peut-être pas au niveau de la saison calendaire, mais le printemps arrive. Il y a un souffle du lion de Juda qui fait que les glaces, elles fondent vitesse à grande, grande, grande vitesse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, vous remarquez qu'il y avait une caverne de glace, et dans cette caverne, il y avait des personnages figés. Vous vous rappelez, hein? Personnages figés. Et il se trouve qu'il y a des personnages bibliques qui ont été recouverts d'une épaisse, très épaisse couche de glace au travers des siècles. Glace, poussière, résidus de toutes sortes, à tel point qu'on ne reconnaît même plus leur forme originelle. Quel est le personnage biblique le plus recouvert de glace? Non, ce n'est pas Adam. En France, en tout cas. Le plus recouvert des glaces de la tradition, de la religion, enfin tout ça. Le plus. Exact. Bonne réponse. Éric, très bonne réponse. C'est Marie. Marie. Ave Maria, je vous salue Marie, pleine de grâce. On a tous, enfin moi j'ai dit ça pendant comment on dit, des chapelets, des chapelets, des chapelets, toutes petites là. Ah, ah. Donc le lion de Juda a soufflé sur ce personnage biblique, la glace a fondu. Elle est devenue vivante. Alors, on replace dans le contexte. Il y avait une ville, petite ville, dont le nom n'est jamais cité dans l'Ancienne Alliance. Alors, je vais vérifier, hein, sur lexique-biblique.com. Jamais cité dans l'Ancienne Alliance. Inconnu. Inconnu dans la Bible hébraïque. Carrément inconnu. Cette petite ville, en plus, occupation romaine. En plus, elle est remplie de résonneurs. Ça vous rappelle quelque chose? Vito, il sait. Rempli de raisonneurs, de gens qui discutent, qui raisonnent, qui pensent. Et à force de penser et de raisonner, ils sont totalement incrédules. Quelle est la ville où Jésus n'a presque pas pu faire de miracle? Réponse. Nazareth. Bonne réponse de Nassienne. Nazareth. Donc, on se propulse dans cet endroit. Alors, à France en feu, il y a une connexion divine incroyable, vous confirmez, hein, ce qui était, entre Nazareth et la France. C'est Nazareth, c'est nous. La France, c'est Nazareth, vous voyez? Il y a une connexion divine extraordinaire, hein, avec notre amie Rania. Alors, on va donc arriver à Luc. Le deuxième extrait, bah oui, quand même, parce que c'est positif, ça. Ah oui, il y a du soleil, on ne va peut-être pas voir grand-chose. Ah oui, enfin, vous imaginez que très très rapidement, ce qui est impressionnant, c'est que c'est extrêmement rapide. Voilà, on commence à voir normalement, voilà, les fleurs vont apparaître très très rapidement. Et on met notre foi en action, on le croit pour le pays de France, ça va aller très vite. Le souffle de Dieu va dégeler tout ça et la vie va revenir très très rapidement. Et vous voyez, on voit des cataractes d'eau. En fait, tout ce qui était glacé s'est transformé en eau vive. Et bon, bah, la puissance des ténèbres, là, elle est très déconfite parce qu'elle n'a plus de pouvoir sur le pays. La glace, elle n'existe plus. C'est des eaux vives qui remplissent le pays. Voilà, ça vous va? Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Les eaux vives à la place des couches de glace épaisses. Donc, on passe à Luc 1 et on va essayer de lire Luc 1 d'une manière complètement renouvelée. Alors, pour information, j'étais en téléchargement, comme dirait Alana, depuis le 1er janvier, 5h du matin, téléchargement de Luc 1, version renouvelée. Alors, Luc 1, on a parlé beaucoup de portes ce matin, vous vous rappelez ? Apocalypse 4, 1, hein, Donatienne, Apocalypse 4, 1, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et on sait qu'avec la justice, les cieux sont ouverts pour nous. La porte, elle est complètement ouverte pour nous et les cieux sont ouverts. Si les cieux sont ouverts, ça veut dire que les chefs de Jacob, hein, les anges, ils montent, ils descendent. C'est nous. Hein, et je crois vraiment on est dans un temps de visitation angélique, je dirais même d'invasion angélique. Il y a beaucoup plus d'anges actuellement qu'avant. Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau angélique. C'est évident qu'il y a une invasion de la France par les armées angéliques. Donc, irruption angélique. Au sixième mois, l'ange Gabriel. Donc, rappelez-vous, hein, on est dans cette ville occupée par les Romains, avec cette bande de raisonneurs, là. Et puis, une irruption angélique, et pas n'importe qui. Hein. L'ange Gabriel, c'est un très, très haut placé dans la hiérarchie des anges. Très haut placé. Donc, une irruption angélique qui débarque comme ça, brutalement, comme ça, chez Marie. Et alors, on va bien regarder qu'est-ce qu'il lui dit. Parce que c'était tellement recouvert des glaces qu'on ne sait même plus ce qu'il lui dit. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Verset 1:28. Il entre chez elle. Alors déjà, je te salue, c'est pas ça du tout. Ave Maria, vous savez, Ave Maria, ta-ta-ta-ta-ta. Je te salue Marie. Qu'est-ce que c'est la traduction? Ah, c'est déjà mieux. Alors ça, c'est la version grecque. Réjouis-toi, c'est le kairé grec. C'est la formule habituelle de salutation grecque. Maintenant, dites l'ange, vous croyez qu'il a parlé grec à Marie? Hein? Il lui a parlé quoi? Hébreu, araméen, en tout cas pas grec, sûrement pas grec. Ce serait comme chez nous, chez moi, un ange débarquait et me parlait anglais. J'aime bien l'anglais, mais quand même, c'est pas... Bon, la grecque, c'était l'équivalent de l'anglais à l'époque. Bon, réjouis-toi, c'est bien, hein? On a beaucoup parlé de joie ce matin, c'est déjà mieux que je te salue. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit réellement à Marie? Salutation hébraïque, c'est shalom, bien sûr. C'est shalom. Il lui a dit shalom. Donc, on raye, je te salue, et on dit shalom. Et le shalom, c'est pas seulement la paix, au sens absence de guerre, absence de conflit. C'est un mot énorme, le shalom hébreu. Le shalom hébreu, c'est plénitude, bien-être, prospérité, paix, mais une paix de plénitude. C'est quelque chose d'énorme. Tout va bien. C'est énorme, le shalom. Et il y a, en novembre 2012, Corinne Lafitte a eu un chant vraiment du Seigneur, le Shalom. Et on était plusieurs centaines au tabernacle de louange de 12 heures sur Paris, spécifiquement Paris. Et pendant 12 heures, on a loué Dieu, et en particulier ce chant Shalom qu'on a proclamé sur Paris. Et ce chant Shalom sur Paris, eh bien, il est à plusieurs centaines d'adorateurs. Eh bien, je peux vous dire que le shalom est descendu sur les banlieues parisiennes. Et cet automne-là, ni l'automne d'après non plus, il n'y a pas eu de problème dans les banlieues. Hein. Il y a eu la paix de Dieu, le shalom de Dieu, c'est quelque chose de très puissant. Le shalom de Dieu, il écrase les ennemis. Le Dieu de paix, de shalom, il écrase les ennemis. Donc c'est ce shalom énorme qui est annoncé à Marie. Shalom. Et à travers l'ange, on voit débarquer chez Marie la culture du ciel, la culture de l'honneur. Alors, il y a plusieurs éléments dans cette culture de l'honneur et on va les voir un par un. Donc, le shalom. Toi, bon, à qui, c'est quoi la traduction? À qui une grâce a été faite? Non, c'est pas à qui une grâce a été faite, c'est pas ça du tout. En fait, il y a une forme passive. Tu as reçu la grâce, tu as été bénéficiaire de la grâce. C'est passif, elle n'a rien fait. Elle est simplement bénéficiaire de la grâce. Vous voyez, le ciel, il vient et dit, la grâce, elle est pour toi. Reçois-la simplement. Et comme on a prié tout à l'heure, ce sont les âmes qui reçoivent la grâce. Les orgueilleux, ils ne peuvent pas. Les âmes, ils reçoivent la plénitude de la grâce. Donc, tu es récipiendaire. Tu reçois la grâce gratuitement. Tu n'as rien à faire. C'est passif. Juste reçois-la. Et le Seigneur est avec toi. Et là, vous avez cette merveilleuse annonce déjà. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu qui vient tabernacler dans son peuple, au milieu de son peuple à la fin d'Apocalypse, Dieu avec nous, c'est le grand projet de Dieu. Donc déjà là vous avez quelque chose d'énorme, le shalom, le déversement de la grâce et Emmanuel, Dieu est avec toi. Et ça c'est pour chacun de nous, c'est pas que Marie à Nazareth, quelque chose autour de l'an zéro, c'est vraiment pour chacun de nous, c'est la culture même du ciel, elle est pour nous. Elle est pour nous et on le reprend par la foi. On reçoit le shalom, on reçoit la grâce et la proximité. Dieu est avec moi, en moi. Je suis son tabernacle. Il vit avec moi, il vit en moi, il est partout avec moi. Et on peut le dire aussi aux autres, puisque cette culture de la grâce et de l'honneur, elle est comme un courant d'eau vive qui circule entre nous. Et après, deuxième parole, verset 30, sois sans crainte. Sois sans crainte. Ne crains pas. N'aie pas de, en grec, ne mets phobou, ne crains pas, n'aie pas de phobie, n'aie pas de crainte, ne crains pas. Et sans arrêt, Dieu nous dit ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. C'est incroyable le nombre de fois où il nous dit ne crains pas. Donc ça, c'est un message pour nous aussi, ne crains pas. Il faut que ça pénètre dans les profondeurs de notre âme, ne crains pas. Et après, il dit, tu as trouvé grâce. Alors c'est étonnant parce que la deuxième fois, ça revient à la grâce. La première fois, c'était tu es bénéficiaire de la grâce, tu la reçois. Simplement, comme ça, c'est absolument gratuit. Et la deuxième, c'est le mot, en fait, en grec, c'est le mot qui a fait Eureka. J'ai découvert, j'ai trouvé. Tu as trouvé. Et je pense, enfin, je vous propose cette interprétation, elle a découvert que Dieu est grâce. Le Dieu de l'ancienne alliance, le Dieu de l'alliance tout court, il est grâce, il est miséricorde, il est bonté, il est bienveillance. Elle a découvert ça, Marie. Alors pourquoi elle a découvert ça? Eh bien, parce que c'était quelqu'un absolument imprégné de la parole. Imprégné de la parole. Et comment on le voit, ça? Bon, on le verra un peu plus tard. Donc, il y fait une annonce incroyable, hein, ça, vous savez. Alors, il faudrait que j'explique aussi, au niveau de la parole, il y a deux termes en grec qui parlent de la parole. Bon, mes élèves, ils savent, hein, parce qu'il y a, n'est-ce pas, Olivia? Il y a, au début, au commencement, était la parole. Ça, c'est logos. La parole logos, c'est la parole entière, quoi. La parole dans son ensemble, la logos, celle qui renouvelle notre intelligence, la grosse logos. La parole incarnée, la parole créatrice, la parole Jésus, la parole Logos. Et puis, c'est la ceinture de la vérité, puisque la parole est la vérité, c'est une grosse ceinture. Alors, Nadine m'a fait remarquer, j'ai une grosse ceinture là. Voilà, c'est une grosse ceinture Logos. Et elle ceinture nos ceintures de vérité, la vérité qui libère. J'ai beaucoup aimé la prière de Dan, hein, qui annonçait la parole, demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples, la parole vous rendra libre. Donc c'est la ceinture de vérité, la parole, la logos. Et vous avez un deuxième mot pour la parole, c'est le rhéma. Le rhéma, c'est l'épée. Dans Éphésiens 6, c'est le rhéma épée. Donc le rhéma, normalement, je n'ai pas d'épée, mais il est dans la ceinture, il est accroché à la ceinture. On a la ceinture bien positionnée, il y a l'épée. Et le Saint-Esprit, il nous fait tirer le rhéma, la parole épée, au moment opportun. Et ça a produit un événement. Réma en grec, c'est parole, mais c'est aussi événement, ce qui arrive. La parole, réma, elle fait arriver des choses. Vous voyez? Et donc, on a sans arrêt cette... En français, on ne le voit pas, parce que c'est traduit parole, parole, parole. Mais il y a parole logos, parole réma, ce n'est pas du tout la même chose. C'est complémentaire. Il faut les deux. Donc, elle était imprégnée, Marie était quelqu'un d'imprégné de la logos. Elle connaissait la logos, elle avait découvert la grâce à travers la logos de la Bible hébraïque, elle la connaissait. Alors pourquoi on la connaît? Bon, on verra un peu plus tard. Alors l'ange lui explique tout ce qui va lui arriver et c'est incroyable, c'est irrationnel dans le monde nazaréen où elle vivait, cette bande de raisonneurs parmi lesquels elle vivait, c'est contre sa culture, complètement contre sa culture. Ça vous rappelle quelque chose, hein, nous les Français, le Seigneur est en train de lever un peuple absolument radicaux par rapport à la parole et ça va complètement à l'encontre de la culture française de raisonneurs. Marie, c'était ça. Donc, elle reçoit cette parole. Et après, donc, verset 37, très mal traduit. Rien n'est impossible à Dieu. Bon, tout le monde sait cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense même que c'est du vol, là, cette traduction. C'est beaucoup plus fort. Alors, je vous explique le vrai terme. Dans cette verset, rien n'est impossible en Dieu, en fait, est caché le mot « rhéma ». Parole. Ça n'apparaît pas dans la traduction, hein. C'est vraiment du vol ça. Le mot rhéma est caché. Et c'est écrit, alors il y a une double négation, vous savez que la double négation, ça rend une affirmation plus positive. Hein, le je n'étais point de chimène, ça veut dire je t'aime énormément. Donc double négation égale très 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 positif. Et là, elle dit, tout réma ne peut pas être sans puissance. Ça, c'est ce que dit le grec. Tout réma venu de Dieu ne peut pas être sans puissance. Ça veut dire que tout réma est extraordinairement puissant. Il agit. Et nous, on a traduit, rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, c'est le réma, tout réma est extraordinairement puissant. Il ne peut pas ne pas agir. Donc il agit. Ça, c'est ça. C'est ce que l'ange a dit. Vous voyez, il a dit grande différence. Hein. C'est ce que l'ange a dit au verset 37. Donc, il lui a dit ça. En fait, il lui a donné un réma. Hein. Tu vas concevoir Jésus. C'était complètement irrationnel, etc. Et vous voyez aussi que cette nouvelle, ça confronte tout l'environnement de Marie. Elle est fiancée. Comment va réagir le fiancé? Les parents n'en parlent pas. Ce sont des choses qui bouleversent tout, quoi. Et elle a une réponse extraordinaire. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. À votre avis, parole, logos ou réma? Réma. Qu'il me soit fait selon ton réma. Et vous avez une réponse extraordinaire, je pense qu'on peut vraiment se l'approprier, si on est d'accord. C'est un alignement total, absolu, radical avec la parole. Et de cet alignement total avec la parole jaillit le miracle et la fécondité, dans cet environnement tout à fait hostile. C'est l'irruption du surnaturel, mais reliée à un alignement radical, complet avec la parole. Qu'il me soit fait selon ton réma, celui que tu as prononcé sur ma vie. Et je crois que le Seigneur est vraiment là, en ce début 2014, nous dire, alignez-vous avec ma parole. Logos et réma, alignez-vous. Et il prépare un peuple absolument radical, justement parce qu'on est en France, comme à Nazareth. Et après, ça, alors ce qui est intéressant, c'est que après, donc on va dire, c'est ce que Rania nous a dit, hein, c'est une pure arabe de Nazareth, donc vraiment une fille de Nazareth, qui nous a dit, Marie, elle portait l'onction du précurseur. Et elle était féconde pour les onctions de miracles, de puissance, de prodiges. C'est vraiment l'onction du précurseur, Marie. Et ce qui est intéressant, c'est que aussitôt après, donc ce jour-là, Marie se leva et s'empressa. Elle va faire quoi, Marie? Pourquoi elle fait des kilomètres alors qu'elle est enceinte et tout et tout? Elle va connecter une autre onction de précurseur. Il y a une connexion d'onction de précurseur. Elle va voir Élisabeth. Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, alors lui, l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie, le précurseur, celui qui dit frayez le chemin du Seigneur, vous voyez. Il y a une connexion de précurseur. Et en fait, c'est ce que doivent faire je pense aux femmes, hein, se connecter, se relier, mais nous tous être étroitement reliés, nous connecter, parce que quand on se relie, il se passe quelque chose. Et dès qu'elle le voit, elle voit Élisabeth, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, il y a Jean-Baptiste qui tressaille, hein, et il y a une explosion prophétique chez Marie, ce qu'on appelle traditionnellement le Magnificat. Mais en fait, c'est quoi le Magnificat? C'est une explosion de joie, donc réjouissance, une joie surnaturelle. Hein, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit a de l'allégresse, c'est un terme fort, mon esprit exulte, il a l'allégresse, il y a une joie exubérante, une joie folle, une joie de folie, quoi. Hein. Et puis, dans tout ce qu'elle dit, ce fameux texte prophétique, très 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 puissant, il y a, ça se voit dans le Nouveau Testament juif, hein, quand on dit le Nouveau Testament, un livre juif, c'est très très bien mis en valeur. En fait, il y a au moins 4 références de psaumes et 1 Samuel. C'est imbibé de la parole de la Bible hébraïque, ce qu'elle dit Marie. C'est là qu'on voit qu'elle est vraiment imbibée de la Logos. Ça sort tout seul. Il y a 4 passages tirés des psaumes et de la 1 Samuel. Et onction de précurseur, c'est l'onction, elle annonce le royaume. Il disperse ceux qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il fait descendre les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Vous retrouvez la même onction qu'Élie ou que Jean-Baptiste. Aplanissez les coteaux, aplanissez les montagnes, que les vallées soient exaucées, que frayez le chemin pour le Seigneur. C'est la même onction, le même frayez le chemin, frayez le chemin. Que toutes les hauteurs soient abaissées, que les vallées soient exaucées, etc. Et on a après les demeurer 3 mois, il y a ce rapprochement, cette connexion forte entre les deux femmes. Donc une grande puissance prophétique et vous avez cette onction de précurseur. Alors, après, qu'est-ce qui se passe pour Marie? Vous savez qu'il y a eu Siméon qui lui a dit une épée va te transpercer l'âme, tout ça. Alors bien sûr, tout le monde pense, oui, l'épée qui transperce l'âme, c'est le moment de la crucifixion et tout, et tout, et tout. Possible, c'est possible. Maintenant, je pense qu'il y a une autre épée, sachant que la parole n'est jamais, c'est jamais une seule interprétation, il y a plusieurs facettes. Cette fameuse épée qui a transpercé l'âme de Marie, on peut penser aussi à l'épée de Hébreux 4. La parole est vivante, efficace, tranchante comme une épée. Et cette parole, elle est venue à travers Jésus lui-même. Hein. Elle avait son petit psychique de maman, hein, sa petite âme psychique, là. Et puis, Jésus, il a tranché. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ? La parole tranchante de Jésus. Alors, en fait, derrière, il y a un immense amour. Parce que Jésus, parole, sait très bien que si Marie est empêtrée dans ses sentiments de maman, ça ne va pas l'aider spirituellement du tout, du tout, du tout. Donc, il tranche pour l'amener à être spirituel et pas empêtré dans son psychique, voyez. Donc il tranche. Et elle vit cette parole qui sépare l'âme de l'esprit, dont parle Hébreux 4. Et puis après, en continuant avec Marie, ah oui, quelque chose qui est très très important, il est dit dans Luc 2, 19, il est dit dans 2, 19, elle faisait quelque chose de très particulier avec la parole. Bon, de nouveau, c'est traduit très mal. Luc 2, 19, Marie gardait ces choses dans son cœur. Ces choses. Non, c'est rhéma. C'est rhéma en grec. Elle gardait les rhéma dans son cœur. Et il y a deux termes, en fait. Elle conservait les rhéma. Alors, il y a un terme qui parle de conserver dans le sens de que ce ne soit pas perdu. Toutes les paroles, les rhéma qu'elle gardait, qu'elle recevait, elle les conservait précieusement. Et je crois que c'est quelque chose que le Seigneur nous appelle à faire. Tous les rhémas qu'on reçoit, les paroles qui nous parlent dans la Bible, il faut les conserver précieusement. Il faut les, comme dit le psaume 1, les murmurer, les méditer, les répéter, que ça évangélise les profondeurs de notre âme. Les noter. Si vous aimez écrire, moi j'écris sans arrêt des tas de choses par rapport à la parole. Mais ceux qui n'aiment pas noter, ben, je ne sais pas, vous les enregistrez, vous faites quelque chose, vous les chantez. En tout cas, les garder précieusement. Donc elle faisait ça, elle les gardait, conservait précieusement. Et ça nourrissait son âme, ça évangélisait toutes les profondeurs de l'âme. Vous savez, celles qui sont profondes, tellement profondes et abyssales que c'est tout noir. Donc il faut que la lumière, elle aille jusqu'en ses profondeurs. Et que la lumière, la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Et il y a une lumière de la parole qui doit descendre dans les profondeurs abyssales de nos âmes bizarres. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça doit descendre. Et ça descend comment ? Ben, je donnerai peut-être des petits conseils pratiques. Sachant que chacun a ses petits trucs, hein, mais je voulais dire les miens. En tout cas, elle gardait ces choses, elle les ruminait, elle les répétait, elle les mâchait, voilà, comme dit Luc. Et puis, il y a un autre terme aussi, c'est un verbe sumbalo qui veut dire en fait jeter ensemble. Alors, comment c'est traduit ? C'est traduit bizarrement encore, elle les conservait, elle les repassait dans son cœur. Voilà, c'est traduit, elle les repassait dans son cœur. En fait, ça veut dire jeter ensemble, il y a une idée d'échange, de communication. En fait, elle conférait avec soi-même, et moi je propose aussi qu'elle conférait avec le Saint-Esprit, pour partager la pensée. Puis elle faisait des rapprochements. Ah oui, mais telle chose, ça me rappelle telle chose. Tel verset me rappelle tel verset, etc. La parole éclaire la parole, les correspondances dans tous les sens. Donc elle repassait, elle mettait ensemble toutes les choses qui lui venaient de la parole. Et c'est ça qu'elle faisait avec le rhéma. Donc c'était quelqu'un vraiment, vraiment ancré dans la parole. Elle était enracinée dans la parole, contrairement aux gens de sa ville, cette bande de raisonneurs. Ah, c'est le fils de Joseph, qu'est-ce qu'il veut faire là, etc. Et attendez, les gens de Nazareth, c'est grave hein, quand même. À un moment donné, Jésus lisait la Logos connue par cœur par tous les Nazaréens, Isaïe 61. Il disait l'Esprit de Dieu est sur moi, ils connaissaient par cœur les gens de Nazareth. Tous les gens, ils lisaient la même, parachat ou je ne sais pas quoi, ils lisaient tout le temps ça, ce truc-là, Isaïe 61. Et subitement, Jésus a dit non, ça c'est un rhéma maintenant. C'est plus Logos, c'est rhéma. Vous savez ce qui est arrivé à Jésus ? Eh ben, on veut te tuer, ça va pas du tout là, on te tue. Ils l'ont emmené sur une paroi escarpée pour le précipiter par terre là. C'était violent la réaction. Quand le rhéma a été prononcé sur leur vie, c'était très 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 violent. Et puis les frères de Jésus, c'était une bande de raisonneurs, pareil, ils croyaient pas du tout en lui. Marie, elle croyait en Jésus, Messie d'Israël. Je pense qu'elle croyait parce que, bon, c'est sûr qu'elle avait eu la visite dans Gabriel et tout, mais elle était enracinée dans la parole, cette visitation de l'ange, ça correspondait avec tous les rémas qu'elle avait eus, la parole qu'elle connaissait, et donc elle a toujours cru en Jésus, contrairement à tous ses enfants, en tout cas aux frères de Jésus, Donc, il fallait le faire. Hein. Elle tenait ferme, alors que tous les frères, ils étaient incrédules, comme tous les Nazaréens. Donc, elle a tenu ferme. Et puis, après, il faut quand même savoir qu'elle a suivi Jésus. Elle a fait partie du très, très, très petit groupe qui a suivi Jésus jusqu'au bout. Alors, de nouveau, pareil, on peut dire, bah oui, mais c'est normal, c'était la maman. Oui, explication purement psychique. On peut donner aussi une explication très spirituelle. Qui a suivi Jésus vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire le pied de la croix, et puis il fallait supporter quand même, eh ben, il y avait Jean, le disciple de l'intimité, de l'adoration, il y avait Jean, et puis il y avait Marie de Magdala, celle qui connaissait la puissance de délivrance, et je pense que c'était vraiment une adoratrice aussi, Marie de Magdala, et puis quelques femmes comme ça, et puis Marie. Donc elle a suivi jusqu'au bout. Et alors, la connexion Jean et Marie, on peut dire pareil, psychique, c'est sympa. Jean, c'était... Non, on peut donner une explication spirituelle, connexion spirituelle entre Jean et Marie. C'était les plus intimes, ceux qui étaient le plus proche, qui avaient le plus d'intimité, de compréhension en profondeur. L'esprit, vous savez, dans Ésaïe 11, on parle des sept esprits de l'Éternel. Et il y a l'esprit d'intelligence, ce qui part en profondeur dans la compréhension de la parole, et l'esprit de sagesse et tous les autres esprits. Mais il y a, dans les sept esprits, il y a l'esprit d'intelligence. Il y a une intelligence du caractère de Dieu et de sa parole. Et puis après la résurrection, elle fait partie de ceux qui persévèrent. Et là, on retrouve de nouveau une caractéristique de l'onction de précurseur. Persévère. Elle fait partie du groupe de disciples qui, dans acte 1, acte 2, et ça revient plusieurs fois le mot persévérance. Elle persévère dans la prière, elle persévère dans l'enseignement de la parole, elle persévère dans la communion fraternelle, elle persévère dans la fraction du pain, elle persévère dans les louanges. Alors, persévérance, actuellement, on est en phase d'élargissement. Hein, en élargissement, Caleb, Josué, Espèf, Froc, c'est... élargissement de tous les côtés, hein, élargissement. Donc on s'élargit, élargis l'espace de ta tente. Que dit la parole juste après ? Affermis tes pieux. Et les pieux, c'est le même mot qui est utilisé pour les pieux qui tenaient le tabernacle. Le tabernacle, c'est nous. Hein. Quel est l'état de nos pieux ? Et le Seigneur est en train de se faire un grand laser sur une vérification sur nos pieux. Donc nos voiles s'étendent, nos cordages, nos tentures s'étendent, on s'étend de tous les côtés. Quels sont nos pieux ? Alors pendant deux messages, on a parlé du pieu louange, adoration, présence de Dieu, avec Michel Guth, avec José, hein, tout ce gros pieu louange, adoration, présence de Dieu. Un autre pieu énorme, c'est communion fraternelle, l'état du réseau de relations proches. Communion fraternelle. Un autre pieu, c'est Sainte-Seine. Et un autre pieu énorme, essentiel, parole de Dieu. Est-on enraciné, ancré dans la parole de Dieu, Logos et Réma ? Sait-on manier le Réma ? Est-on enraciné dans le Logos ? Et Seigneur, vraiment, je crois que c'est essentiel dans ces temps de vent violent. Il y a un vent violent de l'esprit qui vient, on le sait. Un temps, quel est notre enracinement dans la parole ? Alors, c'est ça qu'il y a des partages qui ont commencé hein, chez les Pascasio. Et c'est tellement, tellement fondamental. Au collège Daniel et au lycée, hein, tous les matins, c'est au moins un chapitre qu'on lit. C'est essentiel. Je crois qu'il y a vraiment une injonction de Dieu. Enracinez-vous dans la parole. Et sachez transformer la Légos en Réma. Vous avez besoin du Réma aussi. Absolument besoin du Réma. Et on doit recevoir cette onction de précurseur. Donc, laissons le Seigneur vérifier l'état de nos piquets. Et alors oui, quelques petites choses pratiques quand même. Je peux ? D'éléments pratiques, parce qu'on a besoin de pratiques. Hein. Alors, j'avais noté, voilà. Alors, là-dedans, il y a des forteresses ennemies de la parole. Soyons honnêtes, il y en a. C'est bourré de forteresses là-dedans. Voilà, dans notre mentalité. Mentalité opposée à la connaissance de Dieu. Donc, le Seigneur, dans sa bonté, ne met pas toutes les forteresses à nu tout de suite, parce qu'on ne supporterait pas. Alors, par exemple, je donne un exemple de forteresse. Hein. Intellectuellement, je sais que Dieu est mon protecteur. Les profondeurs de mon abyssal, de mon âme, non, pas du tout, du tout. J'ai eu, par exemple, des exemples abstraits, enfin, j'ai vu mon papa qui protégeait papa, maman, ou mon papa ne me protégeait pas moi. Donc, conclusion de l'âme psychique, Dieu ne me protège pas. Donc, je dois me protéger par moi-même, donc je suis agressive, je suis dans la revendication, je bâtis mon mur de protection autour de moi parce que je sais très bien qu'au fond de moi, Dieu ne me protège pas. Je dois faire ça toute seule. Vous voyez, ça c'est un exemple de forteresse. Donc, imaginons, à travers un sozo, merci Seigneur pour les sozos, c'est mis en lumière, forteresse. Alors, on demande pardon, on se repent, tout ça. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'arrêter là. Nadine, je pense que tu es d'accord. Il faut construire avec la parole. Construire avec la parole. Donc, ça veut dire quoi? Je prends ma concordance, protection, 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 Dieu protecteur, je regarde les versets et je remplis ma bouche orale hein, de versets qui parlent de la protection. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, etc. Vous le dites, vous le mâchez, vous le murmurez, vous le méditez. D'ailleurs, méditer dans psaume 1, ça veut dire murmurer et répéter à mi-voix. C'est murmurer, répéter. Au volant de votre voiture, sous la douche, si vous avez un problème de protection, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous vous évangélisez vous-même. Vous évangélisez votre âme, qui en a bien besoin, la pauvre. Et voilà. Et ça, il faut construire. Construire selon la parole. Alors, vous travaillez ce thème. Si vous avez un problème avec la protection de Dieu, vous travaillez le thème. Vous répétez les versets, vous évangélisez. Moi, récemment, je n'ai pas arrêté de répéter « Le roi se réjouit !» Le roi, c'est moi. « Le roi se réjouit de ta protection puissante !»« Le roi se réjouit de ta protection puissante !» Enfin, il faut que ça... La parole est un marteau qui brise les rocs de nos forteresses, là. Vous voyez ? Et il y a plein de choses. Enfin, pour chaque problème, on peut avoir la même chose. Hein. Et puis, on peut aussi rêver selon la parole. Rêver, ce sera la parole... Par exemple, vous êtes des fins de mois difficiles. Qui n'a pas de fin de mois difficile? Fin de mois difficile. Eh bien, vous allez mâcher, ruminer, parler les versets qui parlent d'abondance, multiplication. Il y en a plein dans la parole. Dieu est un Dieu d'abondance. Il faut que ça rentre là-dedans, d'abord là-dedans. Après, ça va changer sur le compte en banque, mais ça commence d'abord par là-dedans. Ça, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va évangéliser notre âme en lui disant, tu as un Dieu d'abondance. Et ton appel, c'est d'être une source de bénédiction pour les autres. Ce n'est pas pour te faire du bien à toi, c'est pour bénir les autres que Dieu te veut dans l'abondance. Ben, vous allez de nouveau renouveler, laissez-vous transformer, ne vous conformez pas, surtout pas, au siècle présent. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et cette intelligence, elle est renouvelée, elle est lavée par la parole Logos, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Sinon, on peut se planter en beauté. Je vous le dis, on peut vraiment se planter en beauté. Et faire des choix terribles, destructeurs, si on n'est pas renouvelé dans la logos. Donc, c'est très, très, très important. Alors, voilà. Donc, ça veut dire aussi du travail, quoi. Ça veut dire mémoriser, ça veut dire parler, ça veut dire chanter pour les chantres, hein, ceux qui aiment parler. Et puis, parfois, on se sent vraiment stérile. On n'aime pas lire sa Bible, il faut le dire honnêtement, ça nous arrive tous. Ah non, j'ai pas envie. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on ne peut pas lire la parole, eh bien, on prie. Saint-Esprit, viens vivifier, s'il te plaît, parce que vraiment, être honnête. Seigneur, j'en ai ras-le-bol de ma Bible, s'il te plaît, tu peux vivifier ça. Et il le fait, je peux vous dire, il le fait. Hein. Et après, ce que j'aime trop à faire, c'est jouer avec le Saint-Esprit. Alors là, moi j'aime beaucoup, le matin, le samedi matin, vous voyez, la table de la salle à manger, c'est Émilie, ça devient une montagne de bouquins, parce que on se balade dans le jardin de la parole, un verset entraîne un autre verset, qui entraîne un autre verset, et c'est fabuleux. Il y a des tas de trésors qui sont découverts comme ça. Alors, c'est fabuleux. À Noël, j'ai reçu un petit marque-page très prophétique de ma grande-fille Béatrice, là. Oh là 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 là, j'ai dit, oh, c'est trop, trop bien. Chaque petit élément de ce marque-page, il y avait des petites babioles, des petites clés. J'ai dit, clé de David. Ouais, c'est où ça, clé de David? Après, j'ai eu de la broderie. Ah ben oui, ça, c'est le psaume 45, toute resplendissante, et la fille du roi, etc. Après, c'était un rubis. Ah oui, la rubis, c'est le pierre de quelle tribu? Voyons voir. Je crois bien que c'est la Lévite. Enfin, à vérifier, etc. Mais j'aime beaucoup ça. On plonge dans la parole, et puis on surfe, comme ça, dans la parole. Voilà. Bon. 1er janvier, à l'aube, 31 décembre minuit, j'étais toute seule avec mon mari, petit temps calme. Là. Ça commence à pédarader de tous les côtés. Alors, j'aime bien, je vous conseille de faire ça, hein, c'est vraiment chouette. Puis le Seigneur est tellement proche, donc, Seigneur, un petit rhéma juste pour 2014, là, tout de suite, là, minuit, un petit rhéma. Ah ben, ça n'a pas traîné. Je suis le fidèle et le véritable. Ouh, oh, ouais, chouette. Ouh là là, ça, c'est Apocalypse 19. Je plonge dans Apocalypse 19. Ouais, ça me parle beaucoup parce que j'ai eu ça fait des correspondances avec ce que j'avais. Apocalypse 19. Et je vous le sors, Apocalypse 19. Et je l'ai même appelé. J'avais le tableau qui allait avec Apocalypse 19. Et c'est de versets donnés. Au 1er janvier à minuit et quelques secondes. Incroyable ça. Alors je dis, c'est pour nous, c'est pour l'Église, c'est pour Josué, c'est pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il dit Apocalypse 19 à partir du verset 11? Je vous le dis parce que c'est trop bien. Et on va terminer avec ça, avec mon tableau quand même, que je vous montre mon tableau caché. Alors Apocalypse 19, verset 11. Je vis le ciel ouvert. Voilà, ciel ouvert. Porte dans le ciel. Hein, la porte, c'est ouvert. Et voici un cheval blanc. Ah ah, cheval. Il y a un verset qui dit, dis donc, si tu te fatigues avec les piétons, tu feras comment avec les chevaux? On est dans un temps de... Et les chevaux, même, je dirais, plus que trotter, ils commencent à galoper, là. Nous, pendant les vacances de Noël, le cheval a beaucoup galopé. Il y a un de mes enfants, Samuel, est parti en Chine. Classe à faire, gratuite. Pas l'avion, mais la classe à faire, gratuite. Et la deuxième, c'était pas du tout prévu au programme. Biarritz. Ça, c'est la nouveauté du jour. Elisabeth. Voilà, bah, je vous dirai dans les nouvelles, Biarritz. Oui, c'était assez tourbillonnant, ces vacances. Donc, le cheval, un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Je suis le fidèle et le véritable. Et il faut nous enraciner dans la fidélité, qui veut dire aussi... Alors, fidélité, c'est un mot hébreu extraordinaire aussi. Il faudrait tout un message sur le mot qui veut dire fidélité en hébreu. Et le véritable, je suis le véritable. Il juge et combat en justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Ah, flamme de feu. Ah oui. Flamme de feu. Apocalypse 2, église de Thyatire. Vous voyez la correspondance extraordinaire de la parole qui explique la parole. Thyatire, c'est le combat contre Jézabel. C'est Élie. Donc on est de nouveau dans l'onction du précurseur. Vous voyez ce que je veux dire? Trop bien. Donc ses yeux sont une flamme de feu. Il scrute l'état des piliers, l'état des pieux, l'état de tout ça. Il scrute. Flamme de feu, onction d'Élie. Au confront de Jézabel, ouais. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Logos ou Réma? À votre avis. Son nom est la parole de Dieu. Eh non, raté, c'est Logos. C'est la parole dans son ensemble. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Des anges ou des hommes? C'est nous. Parce que au verset avant, hein, verset 8, il est dit que l'épouse de l'agneau est revêtue de fin lin, qui sont les œuvres justes, les justices en fait des saints. Donc c'est nous. On est sur des chevaux, voilà, blancs, revêtus de fin lin, de sa bouche. À Jésus. De sa bouche sort une épée tranchante. Et c'est quoi cette épée? Éphésiens 6, c'est le Réma. Et cette fois-ci, c'est le Réma. Donc, vous avez en trois versets d'écart, 13, le Logos. Il est la parole de Dieu, Logos. Il a une épée tranchante, c'est le Réma. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et ça, c'est le psaume 2. Curieusement, dans le psaume 2, vous avez ce qu'on a chanté, hein. Embrasser le Fils, baiser le Fils, de peur que sa colère, etc. Donc, on a l'intimité, la passion d'adoration pour Jésus, et vous avez le sceptre de fer en même temps. Il foule la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Et vous avez là une image de l'armée que Dieu est en train de constituer, une armée de gens absolument radicaux, des jusqu'au boutistes. Et Dieu est en train de faire ça parmi nous, hein. Enfin, c'est nous, c'est carrément nous. Et c'est aussi l'armée de Joël, l'armée terrible qui va droit devant, qui est absolument alignée avec la parole. Donc le Seigneur est en train de faire un travail d'alignement fondamental, et cet alignement, il commence en nous, pour que nos propres forteresses soient abattues, que le Seigneur se fraye un chemin de gloire en nous, et puis c'est une œuvre, il est en train de... abattre les forteresses, il y a un vent qui souffle, qui enlève toutes les feuilles mortes des anciennes saisons, là, les feuilles mortes de nos mentalités, et il dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté, oublie ta culture, la maison de ton père, ta culture française, oublie, le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Je vous montre quand même le tableau. Il m'a été donné il y a très très longtemps. Et je peux vous même dire que c'est quelqu'un, c'est une gabuléroise qui n'est pas parmi nous, mais c'est une gabuléroise qui l'a fait. Vous avez un cheval blanc. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. Il a été fait il y a des années, dans les années, je crois, 97, 98, il y a très longtemps. Mais c'est le temps, c'est vraiment le temps. Donc vous avez un magnifique cheval blanc et vous voyez qu'il y a un mouvement, il y a un tourbillon. Là, vous avez même un tourbillon énorme. C'est le tourbillon d'Ézéchiel, c'est le tourbillon de le mouvement d'esprit, vous voyez. Et puis vous avez un tourbillon de feu aussi, on est vraiment dans Ézéchiel. Après, vous avez de l'eau vive, des tourbillons d'eau, hein, ça rappelle certaines visions qu'on a eues. Hein. Ben, c'est un peu là, ce qu'il y a là-bas aussi, tourbillon. Et vous voyez que, j'aime beaucoup cette image, parce que sur le cheval, en fait, vous voyez deux têtes. Il y a bien sûr Jésus, et puis je pense qu'il y a nous, quoi. On est avec Jésus, on n'est pas tout seul sur notre cheval. Hein. On est agrippé à Jésus, là, enfin, plutôt il est en nous. Hein, c'est un peu fait. Voilà, et là, vous avez l'épée, ou la lance, comme vous voulez, l'épée ou la lance. L'épée. Et de l'autre côté, vous avez un chandelier à sept branches. Ça parle des sept esprits d'Éternel dont je vous ai parlé, les sept esprits. C'est le chandelier. Et ça parle aussi de l'Église. Enfin, il y a plein de choses là-dedans. Et vous voyez qu'il est vraiment, vraiment, vraiment au galop, le cheval. Hein. C'est au galop. C'est-à-dire que ça va vite, ça va décoiffer. Je ne sais pas ce que nous réserve 2014, mais ça va être assez impressionnant. Je crois que ça va aller très vite et très loin. Et nous, on est sur le cheval. Ou alors, nous sommes le cheval d'honneur de Jésus. Et accrochons-nous. Surveillons nos piquets et puis préparons-nous tous ensemble, encordons-nous les uns aux autres, ça va souffler très fort. Voilà, on peut peut-être terminer par la prière. Hein. Seigneur, nous recevons de toi ce que tu nous dis, nous alignons avec toi, nous voulons faire partie de cette armée qui te suit, vêtue des fins lins blancs de justice. Nous voulons être complètement alignés, continue à abattre toutes les forteresses opposé à la connaissance de ton nom en nous-mêmes. Fais ton œuvre de destruction des forteresses, de construction aussi d'une mentalité renouvelée, celle qui peut discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Seigneur, bâtis en nous cette mentalité. Mets en nous ce désir brûlant, comme a prié Eudan tout à l'heure, mets en nous ce désir brûlant de ta parole, cet amour de ta parole. Saint-Esprit, nous croyons que tu veux déverser en chacun de nous une soif de connaître les profondeurs de ta parole, pas seulement les surfaces qu'on croit connaître, mais les profondeurs vivantes, tellement fécondes de ta parole, Seigneur. On veut recevoir cette onction de précurseur de Marie et cette onction qui nous fait aller jusqu'au bout, te suivre jusqu'au bout. Alors merci, Seigneur, pour toutes les nouvelles choses que tu as prévues et qu'on le vive ensemble, enracinés et encordés les uns aux autres, solidement, et que toutes les voiles de nos êtres intérieurs soient tendus pour que le vent souffle et puis nous emmener très loin. Amen. Amen.